L'Happy Hour scientifique.
Ah, c'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les gueux. Bienvenue, Dominique.
Aujourd'hui, pour cette émission estivale, nous allons vous parler des sciences et d'alcool. La saison chaude regorge d'occasions pour boire des verres en terrasse, sur les quais ou même à la plage. Quoi de mieux que de questionner la place de l'alcool dans notre société aujourd'hui, de discuter de celle qu'elle occupait autrefois et des conséquences physiologiques de cette boisson. On en profitera pour parler de tabous et d'alcoolisme au féminin. Pour l'émission d'aujourd'hui, on accueille Charlotte Perronnet, ancienne journaliste et co-gérante d'une boulangerie solidaire. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Tu as écrit le livre « Et toi, pourquoi tu bois ?» paru cette année. Tu y racontes la construction de ta consommation depuis la première goutte à tes 13 ans jusqu'à l'abstinence il y a quelques années. Bienvenue.
Merci beaucoup.
Pour nous rafraîchir aujourd'hui, nous sommes aussi en compagnie de Quentin pour l'interview.
Bonjour à vous tous.
D'Eli qui nous plongera dans le monde de la biologie.
Salut tout le monde.
De Sacha pour animer le Caps ou pas Caps.
Et salut salut.
De Jocelyn qui va nous rejoindre après pour nous parler un peu d'histoire. Et d'Alice et Péa à la technique. On commence tout de suite avec les shots à l'invité. Je rappelle le concept. Charlotte, tu as une minute pour répondre à un maximum de questions le plus vite possible. Est-ce que tu es prête ?
Allez, c'est
alors,
parti.
On commence direct. Hein. C'est la Happy Hour, le barman se rapproche et te demande qu'est-ce que je vous sers ? Qu'est-ce que tu réponds ?
Waouh, une ginger beer.
Ah oui, je t'ai pris au dépourvu. Charlotte, d'où tu viens ?
De banlieue parisienne.
Est-ce que tu aimes voyager ?
J'adore ça.
Plutôt en train ou en avion ?
Ouf, ça dépend.
Est-ce que tu préfères regarder la télé ou écouter la radio ?
La radio.
Et c'est quoi le dernier bouquin que tu as dévoré ? À part le tien.
Ouais, quand même. Élodie Font.
C'est quoi ton talent caché ?
Musicienne.
Vu que tu travailles en boulangerie, plutôt baguette tradition ou baguette classique ? Bien sûr. Tu as été journaliste, gérante d'un restaurant, chargée artistique et désormais dirigeante d'une boulangerie solidaire et anti-gaspi. À quand une série Netflix sur ta vie ?
Ouf, pas tout de suite peut-être.
C'est un peu tôt. Et toi, pourquoi tu bois ginger beer ?
Parce qu'il est... Oh waouh,
ouais,
c'est
ouais,
hyper
elle,
rapide.
C'était rapide, c'était
c'est
hyper rapide.
C'est vraiment hyper
rapide. C'est bien rimé, hein.
C'est, elle, on était parfait, on était synchro au top.
On dirait que c'est préparé.
Ah, c'est comme ça.
Un tout petit peu préparé quand même. Est-ce qu'on passe directement à l'interview ?
Oui.
On va discuter un petit peu du coup. Charlotte Perronnet, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau.
Merci pour l'invitation.
On est ravis de t'accueillir. On te reçoit pour parler d'un bouquin que tu as écrit, un bouquin qui s'appelle « Et toi, pourquoi tu bois ?» aux éditions de Noël. Tu y délivres un témoignage sincère et puissant sur l'alcool et, et l'addiction pardon, que tu as développée à la boisson au cours de ta vie. Tu pourras nous expliquer un petit peu ta vision des choses et ce que tu écris dans ton bouquin. Voilà. Et tu vas notamment parler d'une chose qui m'a marqué. C'est un moment de bascule à 30 ans. Je pense que tu pourras nous parler un petit peu de tout ça, où tu as frôlé la mort, si j'ai bien compris. Alors, je ne sais pas si... Bon, voilà. C'est
ouais,
ça, à peu
ouais,
près
Alors, je ne sais pas s'il y a eu un moment de bascule, parce que je ne suis pas vraiment tombé dedans du jour au lendemain, mais il y a eu une longue construction et quelques chutes quasi mortelles. Ouais.
Mais aujourd'hui, tu en es sorti. Ça fait bientôt 3 ans et demi, si
ouais, exactement.
C'est ça, que tu n'as pas avalé une goutte d'alcool, si j'ai bien compris. Grâce à ta plume d'ancienne journaliste, du coup, dans ce bouquin, tu nous racontes ton histoire et tu questionnes la place de l'alcool dans notre société. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, de ton enfance, etc. Voilà. Alors, c'est une question qui est très directe sur ta vie personnelle, hein, parce que c'est très perso comme question.
Et en même temps, je me fous un peu à poil dans ce livre, donc,
bah ouais,
donc c'est
finalement.
Ok. C'est okay. Je viens d'une famille assez classique en France. J'ai grandi en banlieue parisienne avec 3 sœurs et des parents aimants. Une banlieue un peu chicos. Voilà. Et après, si on parle un peu plus d'alcool, vu que c'est un peu le sujet, mon premier verre c'est bu en famille, de manière assez initiatique, côté un peu tradition. On m'a fait goûter, j'avais 13 ans.
13 ans.
Ouais, c'est un peu jeune, c'est peut-être discutable. Mais j'avais 13 ans et on m'a servi un petit fond de sauterne, de vin blanc liquoreux, vraiment pour ma culture générale. Et il y avait un sauterne, ouais. Une huître, du foie gras, quoi. C'était un peu, voilà, on partage les bonnes choses.
Et c'était histoire de goûter.
C'était histoire de goûter, ouais.
Autour de la table, c'est à quel âge votre la première fois que vous avez bu de l'alcool? Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Ouais, il y a un truc à Noël, ouais, souvent aussi, c'est comme pense. Ça. On finit, enfin, moi, quand j'étais petit, c'était un peu le truc interdit. On allait finir les fonds de coupe de champagne. Donc,
là, des parents.
Ce n'est pas un premier verre, vraiment. Mais après, ouais, je pense, sinon, ça doit être 14 ans, je pense.
Ouais, 14-15 ans.
C'est plutôt pendant les soirées, je pense. Ouais. Et après, un peu à Noël, mais plus pendant les soirées, lycée, ou pas lycée plutôt, on va dire collège, fin collège, quoi.
Les soirées, la famille, etc. Toi aussi, Ellie?
Bah, moi, je viens du nord de la France et j'avoue que mes grands-parents, ils m'incitaient un peu à boire. J'avais le même âge que toi, Charlotte. Et je disais non, non. Et j'ai bu vraiment tard. J'avais au moins 22 ans quand j'ai commencé à boire. Ouais. Mais bah, je peux compter quand même mon premier verre, peut-être à 10 ans, quoi. Du coup, genre en mode, on m'a filé un fond de rosé, là, ça m'a choqué en fait quand j'y repensais plus tard, quoi.
Mais tu disais non, non?
Ouais, je disais non, mais après j'ai fini un peu par céder. J'ai fait bon, allez, je vais goûter, mais finalement, après ça n'a pas eu d'impact, ça va, mais ça aurait pu. Enfin, c'est quand même dangereux un peu ce genre d'incitation.
Moi aussi, j'ai une famille qui vient du nord de la France.
Moi aussi.
Mais vous êtes voisine, ça se trouve.
Bah,
vous étiez
du côté de Merlimont.
Ah ouais, non, moi pas tout à fait, c'est Valenciennes plutôt.
Ah ouais, ok.
Alors du coup, tu nous disais à peu près vers 13 ans, donc ton premier verre.
Ouais.
Et ensuite, comment ça s'est passé au niveau de ta consommation?
Ce premier verre est hyper anodin, hyper anodin. Non, non, théoriquement, il ne devrait pas l'être. Et on ne devrait pas normaliser ce genre de choses. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas contre le fait de faire goûter, les bonnes choses, étant très amoureuse du patrimoine agricole. Mais on va dire, voilà, pas forcément normaliser ce genre de dégustation.
Bah, on pourrait presque comparer ça à faire tester une clope à un gamin de 13 ans, presque, non? Au final.
Ah, ça c'est une bien bonne question. Y a un côté patrimoine dans le vin qu'on n'a clairement pas dans le tabac. Et il y a un espèce de truc totalement su, quoi. Évidemment, dès la première cigarette, c'est hyper problématique, mais c'est la même chose pour l'alcool, en fait, d'ailleurs. C'est complètement la même chose pour l'alcool. On pourrait le comparer, mais on ne le fait pas.
C'est vrai que ça fait partie du patrimoine, le vin, etc. On peut comprendre qu'on fasse goûter. Au niveau de tes études, qu'est-ce que tu as fait? À 13 ans, tu n'étais pas en école d'ingé encore, mais tu as été en école d'ingé. Tu as été journaliste, on va en parler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours?
Collège, lycée classique. Après le bac, je décide de rentrer en école d'ingénieur en agriculture. Mais dans l'objectif de faire du journalisme agricole, je me dis que j'ai envie de faire ça, mais quitte à faire du journalisme agricole, on va éviter de raconter des conneries. Donc on va se former avant. Donc je fais une école d'ingénieur en agriculture, puis après derrière je rentre en master de journalisme à Paris et je rentre en rédaction. Enfin, je bosse dans une rédaction en radio. Et j'y bosse pendant quelques années, ça se passe très bien, c'est très chouette. Et j'aime beaucoup mon métier, mais jusqu'à un beau jour où finalement mon meilleur pote me propose d'ouvrir un restaurant, et pourquoi pas, en fait.
Et du coup, changement de vie, basculement.
Mais je lui dis, mais d'accord, mais à une seule condition, c'est qu'en fait on l'ouvre, mais on travaille 100% en direct des agriculteurs. Moi, c'est le moment où je trouvais ça super de tendre le micro aux producteurs, aux agriculteurs. Mais j'avais aussi un petit peu envie de les faire bosser. Enfin, c'est super d'aller raconter leurs histoires, mais je me disais, si en plus je peux leur donner un peu de sous, c'est peut-être encore mieux. Et du coup, donc on fait ça. On ouvre le resto, resto que je vais avoir pendant 2 ans et demi à peu près, jusqu'à un autre changement de vie.
Ouais, maintenant, c'est en boulangerie, c'est bien ça?
Ouais, exactement. Bah, en fait, suite au resto, je fais un peu d'événementiel. J'en profite pour écrire ce livre. Mmh. Le restaurant s'est aussi arrêté parce que justement, il y avait une consommation d'alcool qui était un peu problématique, un peu carrément problématique même. Et puis maintenant, j'avais à cœur de retrouver un métier de bouche parce que j'aime vraiment ça. Et là, on est dans un métier de bouche sans alcool, avec plein de sens, dans une boulangerie anti-gaspillage. Ouais.
Ça s'appelle Demain Boulangerie, une boulangerie sociale et anti-gaspille, si j'ai bien compris.
Exactement, ouais. En fait, on rachète des invendus de boulangerie et on les revend juste pour un jour de plus à moitié prix.
Voilà. Une boulangerie avec beaucoup de valeur. Est-ce que tu peux me parler, au niveau de ta formation, de la place qu'avait l'alcool, au final? Parce que c'est vrai qu'en école d'ingé, on peut avoir tendance à avoir tous les copains, etc., qui nous amènent au bar, etc. Et puis, on a tendance à vouloir beaucoup boire et faire les soirées habituelles, quoi. Est-ce que toi, ça a été ton cas pendant tes études?
Moi, je suis arrivé en école d'ingé agri et... Il n'y a pas eu un mot de prévention. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui il y en a. Ce serait intéressant. Bah, c'était il y a quand même. Ça va me dire. Mais c'était quand même il y a quelques années. Et il n'y avait pas un mot de prévention. Pas un seul. Et moi, c'était une époque où il y avait encore les open bars, même, en fait.
D'accord.
Donc, je suis rentrée en école d'ingé, alors qui ont été interdits au bout d'un an d'école. Mais je suis rentrée en école d'ingé, il y avait les open bars. Et c'était une manière de se faire intégrer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais perçu. C'est-à-dire que moi, j'arrive en plus un peu parisienne, dans un milieu un peu plus rural. Et je me rends compte instantanément que l'alcool, c'est aussi une manière de se faire intégrer. En fait, tout le monde est un petit peu au même niveau quand on a bu trois bières, quoi. Et moi, j'avais vraiment à cœur de me faire des potes. En fait, moi, c'était ça ma plus grande crainte. C'était de me dire, mais je vais passer 5 ans dans cette école et j'ai peur de pas me faire de potes et je me rendais bien compte qu'en buvant des coups, en fait, ça me donnait du courage pour aller voir les gens, pour aller discuter avec eux, et aussi parce qu'on était dans une ambiance d'un thé, un thé bizutage. Là, je pense que clairement la frontière est un peu mince, mais il y avait ce truc de, enfin, en fait, on a rentré à l'école et il y avait carrément une semaine entière d'intégration. C'était même un peu plus qu'une semaine. Et globalement, le fil rouge de la semaine, c'était de picoler, quoi. Et il y avait plein de jeux, plein de trucs autour de ce truc-là. Et c'est vrai que moi, je voulais en être. Je voulais en être à tout prix, quoi.
C'est une porte d'entrée sociale, un peu.
Non, mais complètement. Ouais. Complètement. On arrive en école. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive en école. Déjà, c'est un peu intimidant, forcément. On quitte un peu le cocon familial. J'arrive en école. Je suis dans ma petite chambre de 9 mètres carrés, tout de suite on me propose des soirées, évidemment que j'y suis, et évidemment que je veux me montrer cool en plus, je veux me montrer sous mon meilleur jour, et moi j'ai l'impression que la meilleure version de moi est une version alcoolisée un peu désinhibée, quoi.
Voilà, désinhibée, c'est quand même une des premières choses qu'on ressent quand on a de l'alcool. Est-ce qu'autour de la table aussi, vous avez ressenti un petit peu la même chose au niveau de l'alcool?
Il y a vraiment un truc de brisage de timidité et d'acceptation sociale. Dans les premières soirées que tu fais fin collège ou début lycée, ça dépend des gens. Il y a vraiment ce truc, tu viens pour te la mettre, quoi. C'est un peu ça, et j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil, quoi.
Ouais, c'est aussi le fait de partager quelque chose, et donc en fait, si tu veux t'intégrer, tu dois aussi jouer le jeu avec tout le monde et partager ça. Et après, on en parlera peut-être plus tard, mais donc en fait, si tu refuses, ça veut dire que tu joues pas avec tout le monde. Voilà, après Ellie, peut-être que tu peux nous dire toi ce que t'en penses, étant donné que t'as commencé un peu plus tard.
Je suis assez d'accord avec ça, mais justement moi j'ai essayé un peu de m'en détacher et de pas associer certains moments forcément à l'alcool, comme on va aller prendre la Piawar, comme on peut faire ici, on n'est pas obligé de boire en fait, c'est quelque chose qui est devenu trop une habitude, et justement moi j'essaie de m'en détacher parce qu'après sinon je trouve ça pas normal en fait de pas boire. Et alors j'en ai peut-être pas tellement envie, mais du coup c'est aussi une sorte de pression sociale. Mais après chacun fait ses choix, je pense, et faut être plus fort que ça, quoi. Mais après c'est clair que pour moi, quand je bois, malheureusement j'ouvre un peu trop ma gueule, un peu plus que naturellement, donc c'est mieux de pas boire aussi des fois, je pense.
Ouais, c'est vrai.
Est-ce que du coup pendant l'école d'ingé, c'est vraiment le moment où tu as senti que ta consommation elle augmentait, ou est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que tu buvais trop, ou que tu buvais beaucoup en tout cas, et que tu aimais ça?
Je pense pas que ce soit en école d'ingénieur que ce soit installé. Enfin, en fait, si, probablement que ça s'est installé en école d'ingé. En fait, avant l'école, je buvais le week-end avec mes potes de lycée. Clairement le but de nos soirées était de se la coller, c'était le goal, quoi. C'était le goal, on faisait des jeux à boire et le but c'était qu'on soit défoncé en fin de soirée et qu'on rentre tous un peu chez nous la tête à l'envers, quoi.
Sans s'en rappeler.
Ouais, sans trop s'en rappeler, clairement. Et puis le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait. En arrivant en école d'ingé, il s'est passé un truc, c'est que finalement ces soirées qui se faisaient le week-end, là c'était un peu tout le temps. Là il y avait moins le truc du week-end. D'ailleurs c'était assez peu le week-end finalement, parce que vu qu'on était tous à Rouen, il y avait ce truc un peu de on rentrait chez nous aussi le week-end, donc c'était beaucoup la semaine. Et je pense que ça a installé surtout des habitudes de conso, parce que finalement d'un truc hyper ponctuel au lycée, là je suis passé à une consommation hyper régulière. On avait un foyer dans l'école dans lequel il y avait même une tireuse en fait à bière. On était sponsorisé par une marque de bière normande locale, brillant, okay. Très discutable, mais en fait c'est vrai que il y avait ce truc des consommations qui s'installent, quoi. C'était normal, c'était un peu la routine après
c'est
une
ancré.
Journée. Exactement, exactement. Et du coup, est-ce que l'addiction a commencé là? Peut-être, parce qu'en fait c'est aussi le moment où je fais mon premier coma éthylique. Ça fait même pas 6 mois que je suis à l'école. Ouais, c'est ça, ça fait même pas 6 mois que je suis à l'école. Et une soirée d'une autre école d'ingé où j'y vais et là en fait je bois jusqu'au coma quoi. Je bois jusqu'au coma et alors moi sur le coup je me dis surtout j'ai déconné hyper fort mais je me dis pas que c'est grave en fait ce qui vient de se passer. C'est aujourd'hui après en avoir discuté avec mon addictologue après enfin c'est de prendre un peu de recul sur ce qui est, sur cet événement quand même qui me dit mais en fait quand on est capable de boire jusqu'au coma à 18 ans
Ah t'avais 18 ans d'accord.
J'avais 18 ans ouais. Lui m'a dit c'est quand même pas hyper normal en fait comme ouais. Comme façon de consommer parce qu'en fait enfin le coma peut entraîner la mort quand même et lui m'a dit ça marque déjà un premier rapport un peu dérangeant avec l'alcool
alors que sur le coup t'étais plutôt dans le mode oh, c'était une soirée bon j'ai déconné mais tu étais complètement déconnecté des conséquences peut-être que ça aurait pu avoir sur le coup.
Ah bah moi sur le coup j'ai surtout très très honte en fait okay. Très très honte et je veux absolument pas penser à ce qui vient de se passer okay. C'est une soirée de gala je suis en robe de soirée je vomis sur les pieds de mon pote. Enfin, en fait, j'ai honte et je ne pense absolument pas à ce qui vient de se passer, quoi. D'ailleurs, je fuis en fait à l'hôpital. Je m'en vais et je me dis, mais en fait, je ne veux plus me rappeler de ce qui vient de se passer.
Et on va continuer à en reparler. Oui. Il y a encore beaucoup de trucs à dire. C'est super intéressant.
Oui, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale. On écoute Drunk in Love de Beyoncé.
Niveau timing. Je...
I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na na. Drunk in love. I want you. We woke up in the kitchen saying, hi. It happened, oh baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off in that glue. Drunk in love, we be all night. Love, we be all night.
Et de retour sur l'Happy Hour Scientifique avec notre invitée Charlotte Perronnet.
L'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
Et on va continuer avec Charlotte Perronnet qui est avec nous, qui nous parlait de sa consommation excessive et donc de son premier coma du coup à 18 ans. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte que tu avais un souci avec l'alcool ou c'est beaucoup plus tard que c'est arrivé ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Bien trop tard en fait d'ailleurs.
À quel âge ?
Face à l'addictologue à 30 ans.
Donc près de 12 ans plus tard, 12 ans après ton premier coma du coup.
Ouais, en fait j'ai même atterri dans le cabinet d'un addictologue en lui disant il se pourrait que peut-être je sois un peu trop une bonne vivante quoi. Mm. J'avais pas de problème d'alcool pour moi, enfin en tout cas j'étais dans un déni absolu. Mais vraiment tellement tard en fait. En fait je m'en suis rendu compte quand j'ai entrepris de diminuer avec l'addictologue. Quand il a été décidé que j'allais essayer de me passer de certains verres et qu'à ce moment-là c'était hyper compliqué en fait que j'en devenais folle en fait complètement folle et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte mais pour moi avant j'étais juste une bonne vivante.
C'était quoi ta consommation par jour combien de en termes de quantité d'alcool tu pouvais emmagasiner
à la fin. En tout cas, ouais, bon, on va dire les quantités. Vraiment à la fin, quand j'ai atterri chez l'addictologue, ouais. J'étais à peu près 10-12 litres de bière par jour.
De bière. 10-12 litres de bière. Ça paraît énorme.
Ah bah, le corps s'habitue à des folies, en fait. Mmh. Enfin,
il boit plus d'eau, il boit de la bière.
Ah bah je buvais plus d'eau, je voyais assez peu l'intérêt de boire de l'eau.
Du coup, l'alcool et de l'eau prend tout son sens, du coup, malheureusement.
Ouais, là complètement. Bah, après, j'ai... Mais en fait, on peut être quand même alcoolique pour beaucoup moins que ça. Et par exemple, ces litres de bière, je les buvais pas tous les jours. Et vu que je les buvais pas tous les jours, je me disais, bah non, mais ça va. Je suis pas alcoolique, je bois pas tous les jours.
Et moi j'ai une question là qui me vient. Comment tu passes en fait d'une consommation où t'es en soirée, tu bois beaucoup avec tes potes, peut-être que tu bois quelques verres de vin à table, à justement une consommation qui devient excessive, qui monte jusqu'à 12 litres de bière. Est-ce que c'est un glissement qui se fait progressivement, ou est-ce qu'il y a des événements qui font que tu bois plus d'un seul coup?
C'est un glissement qui est quand même hyper progressif. Moi, il y a pas ce truc de je tombe dedans, quoi. Il y a pas un truc, il y a pas un avant après un moment où je passe d'une bière de temps en temps avec des copains à je vais me
bouteille
avec
le soir, hein.
Et d'ailleurs, enfin, je buvais jamais d'alcool fort, ou en tout cas c'était tellement ponctuel que vraiment je m'en rappelle même pas. Mais non, c'est, enfin, en fait c'est un tas de petits événements qui on passe d'un verre avec les copains du lycée, très 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 cool kid, quoi, à finalement je bois un peu plus régulièrement en école d'ingénieur en agriculture, puis je continue ce truc là évidemment je veux continuer ce truc là avec mes copains d'école de journalisme, puis après en fait je me mets aussi à boire en arrivant en rédaction en radio. Bah finalement on se met à boire des horaires un peu improbables. Mais parce qu'on est en matinale et qu'à 9h, finalement, c'est un peu l'heure de l'apéro, non? Et donc on boit... Enfin, voilà, moi, je me mets à boire à des heures qui sont moins normales. Puis une rupture amoureuse, je me mets à boire seule. Mais ça va être une bière, ça va être deux bières. Puis finalement, bah, je fais pas une soirée, mais je fais un apéro, un dîner, une soirée, un after. Hop, je remets mon compteur à zéro à chaque fois, à chaque personne que je recroise. En fait, c'est vraiment un glissement, quoi. Et puis après... aussi j'ouvre un restaurant et j'ai surtout de l'alcool à volonté, quoi, vraiment à volonté. J'ai plus qu'à tendre le bras et j'ai la tireuse, quoi, en fait.
Je voulais juste poser une question aux gens autour de la table. Est-ce que vous savez combien de personnes décèdent à cause de l'alcool chaque année
en France?
Oh ouais, je crois que c'est un gros chiffre, hein. c'est autour des
40 000, dont 11 000 femmes, c'est pas ça?
On est à 49 000, c'est le chiffre de 2023. Ça tue 14 fois plus que les accidents de la route. C'est de la folie. C'est complètement dingue. Et en fait, on ne s'en rend pas tellement compte, en fait, de ces chiffres-là. On ne le sait pas forcément.
C'est la première cause d'hospitalisation en France, l'alcool. Bah, les gens, en fait, qui se blessent, en fait, et qui atterrissent à l'hôpital, mais parce qu'ils ont bu, en fait.
C'est un peu paradoxal d'avoir cette info-là, et d'un côté, avoir cette image du gars qui boit son Ricard en faisant la pétanque. C'est un bon vivant, c'est les copains, un petit saucisson, tout ça. Et d'un autre côté aussi, la place de la femme et de l'homme dans le cadre de la boisson, elle n'est pas la même quand même. T'en parlais dans une interview, je trouvais ça intéressant, le sujet de l'alcool féminin.
Il y a un aspect, moi j'aime pas opposer l'alcoolisme au masculin de l'alcoolisme au féminin. Je pense qu'on a déjà c'est une maladie, faut vraiment le rappeler, c'est une maladie, c'est pas une volonté, quoi. On s'arrête pas du jour au lendemain par sa simple volonté, non. C'est une maladie, et oui, malheureusement on a quelques dénominateurs communs quand on est des femmes et qu'on est alcoolique, c'est que c'est la honte, en fait, surtout. On est très clandestine, on se cache beaucoup, beaucoup, et on se cache partout aussi. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'aller montrer qu'est-ce qu'on boit, comment on boit, pourquoi on boit. Et en fait, c'est parce que la consommation, l'alcool est quand même le produit de la désinhibition. Enfin, ça, je pense qu'il y a beaucoup, on le sait. Combien de personnes se sont mises à boire aussi pour se donner, par exemple, du courage pour aller danser, rien que ça. Et sauf que forcément, on est un peu plus libéré quand on boit, potentiellement. Et en fait, ça colle pas avec une image qui est vraiment 100% discutable, mais celle qu'on attend de la femme, qui devrait se tenir, quoi, un peu. Et je déteste ce terme, c'est absolument affreux. Mais ce truc de présenter bien, potentiellement d'être une mère, alors je suis pas maman, mais d'être une mère qui s'occupe bien de ses enfants, etc. En fait la femme qui boit colle pas du tout avec cette image là et résultat, on se cache, quoi. Et en fait, il y a aussi un dénominateur commun aux femmes alcooliques, c'est que quand on demande de l'aide, souvent il est un peu tard. C'est compliqué d'aller voir un médecin et lui dire bah ouais en fait je bois.
C'est ça qui t'a sauvé, un médecin. Qu'est-ce qui t'a sauvé?
Moi, ce qui m'a sauvé, c'est ma compagne. C'est un ultimatum en fait. Enfin, j'ai pas arrêté de boire pour moi. Aujourd'hui, je reste sobre pour moi et ça, c'est essentiel. Il faut d'ailleurs, faut rester sobre pour soi et que soi, parce que sinon, ça tient pas. Mais moi, j'ai arrêté de boire parce qu'en fait, on m'a mis face à ma consommation et qu'on m'a dit, mais en fait, si tu fais rien, je vais me barrer. Et moi, je me suis pas dit que j'étais alcoolique à ce moment-là. Je me suis surtout dit que j'avais très peur de me faire quitter en fait. Et après, par contre, j'ai rencontré un fabuleux addictologue qui m'a beaucoup aidé. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est les gens que j'ai rencontrés en fait.
Okay. Je rappelle juste ton Vas-y. Bouquin. On peut l'acheter, je crois, un peu partout, un peu partout. Notamment, j'ai vu ça sur Amazon. Enfin, c'est un peu partout. Peu importe.
Oui, aller en librairie.
Tout à fait. Aux éditions de Noël. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je suis d'accord. Oh là là, j'ai fait l'apologie d'une grande entreprise industrielle américaine. Non, très bien. Et donc voilà, ton bouquin est disponible. N'hésitez pas à l'acheter. C'est aux éditions de Noël. Merci du coup de nous avoir dit tout ça. Puis on va continuer à échanger sur le sujet. C'est super intéressant.
Merci beaucoup pour ton témoignage, Charlotte. On va maintenant écouter Jocelyn pour sa chronique sur l'alcool dans la religion et à travers l'histoire. On t'écoute, Jocelyn.
La bière est la preuve que Dieu nous aime. Sympa, non? Vous avez peut-être déjà entendu cette citation qu'on attribue à Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Sauf que, en fait, non, elle est complètement fausse. C'est une désinformation, une déformation d'une vraie citation, par contre, dans une lettre adressée à un de ses amis hommes d'église, que je vais vous donner. Il parle de la transformation du miracle de l'eau transformée en vin. On parle de la conversion de l'eau en vin comme d'un miracle, mais cette conversion est faite tous les jours par la bonté de Dieu sous nos yeux. Voilà l'eau qui tombe des cieux sur nos vignobles, et alors qu'elle entre dans les racines des vignes pour être changée en vin. Preuve constante que Dieu nous aime et qu'il aime à nous voir heureux. Bon, ça sonne déjà mieux. Cela dit, il y a tout de même quelque chose d'un peu étrange dans ce rapport entre la religion et l'alcool. Étrange car dans beaucoup de cultures, la religion, justement, contient tout un tas de règles morales censées nous guider dans notre comportement. Encore plus dans la religion catholique. Sauf que là, l'alcool n'est pas seulement toléré, il a une valeur positive, une essence supérieure. C'est de l'eau améliorée. Quand Jésus transforme l'eau en vin, c'est un miracle parce qu'on considère que c'est une amélioration. S'il transformait le vin en eau, on parlerait déjà beaucoup moins de miracle. Mais pourquoi cette valorisation de l'alcool, qui est pourtant l'une des drogues les plus fortes et les plus dangereuses? On imagine mal un parent, donc, comme on disait, laisser son gosse tirer une latte à la fin du repas. Par contre, un petit coup de rouge pour faire goûter au gamin, là ça passe. Une petite bière pour fêter le départ de Gérard, ça passe. Une émission de radio fondée sur un concept alcoolique, ça passe. Alors, on peut chercher une raison à tout cela. Bon, il est vrai que l'alcool a des propriétés très utiles. Dans l'histoire, on s'en est servi pour désinfecter les plaies, stériliser les outils, préserver de la nourriture et de la boisson. Bref, tout ça sont des avantages, nous dirons, pratiques. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. J'aimerais, si vous voulez bien, faire une petite approche anthropologique de la question. Un point intéressant, par exemple, est que la consommation d'alcool est accompagnée de discours ambivalents. Il peut être à la fois valorisé, mais en même temps déconseillé. Tantôt interdit, tantôt, oui, valorisé. Alors, par exemple, il n'est pas autorisé aux personnes mineures. Il marque donc un stade dans l'évolution de l'individu. En boire, c'est sortir de l'enfance. On pourrait presque parler d'un rite de passage. Donc quand un jeune boit de l'alcool, il franchit un interdit. C'est pourquoi parfois c'est comme ça en fait qu'on boit pour la première fois, on veut s'émanciper. Donc c'est pas pour rien qu'on trouve très souvent dans la culture pop américaine, dans les films, les séries, qui entre nous contiennent beaucoup de rites de passage. Hein. Bal de promotion, entrée à l'université, mariage, naissance, première fois, première cuite. Donc que ce soit pour devenir cool en désobéissant aux parents ou marquer son entrée à l'université, souvent, dans l'esprit populaire, on devient adulte et indépendant avec la première cuite. Bon, il marque aussi une distinction genrée, comme on venait de dire. Chez les hommes, il est plutôt valorisé, ça peut être un marqueur de virilité, de maturité, et plus on vieillit, souvent, plus l'alcool est fort. Mais au contraire, chez les femmes, on va plutôt avoir un point de vue péjoratif. C'est triste, c'est dangereux de voir une femme boire dans l'esprit. Donc boire, c'est aussi être amené à sa position sociale. Mais on peut jouer avec ça, justement. Dans le premier film, Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, l'entrée en scène du premier rôle féminin, Marion Ravenwood, c'est une scène d'alcool. Et c'est pas anodin, c'est volontairement prendre à contre-courant ce qu'on a l'habitude de voir. C'est d'ailleurs, d'après l'actrice Karen Allen, ce qui lui a fait aimer le personnage. Elle l'a dit, quand elle a lu le script, cette scène, l'introduction, lui a fait aimer le personnage. Donc boire est un acte social, il marque celui qu'il boit. Il rappelle qui nous sommes aussi. Un autre aspect intéressant de l'alcool, c'est que c'est une substance psychotrope. En la buvant, notre perception du monde change. Il désinhibe, il abaisse des barrières sociales notamment, et crée du lien avec ceux qui nous entourent. En fait, c'est un tellement bon catalyseur social que dans beaucoup de croyances et de traditions, il crée même des liens métaphysiques. C'est pourquoi il y a énormément à travers le monde et l'histoire de pratiques de transe, de possession, qui passent par l'alcool. Il a cette dualité, une propriété physique que l'on voit bien, liquide comme l'eau, mais aussi des propriétés métaphysiques qui nous affectent sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, jusque dans notre psyché. Donc dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains, par exemple, s'en servaient pour offrir, faire des offrandes aux dieux. Pour les chamans, encore aujourd'hui, qui existent, c'est pour la transe et communiquer avec l'au-delà. Donc j'aimerais terminer là-dessus. L'alcool, c'est en fait un agent social. Il donne une place, il crée du lien. C'est boire est un acte social. Mais du coup, refuser de boire en est un aussi. Donc pour faire un petit peu de Bourdieu pour conclure, on pourrait dire que l'alcool, selon comment on le boit, marque la personne dans la société, mais il marque aussi une différence entre ceux qui en boivent et ceux qui refusent d'en boire.
Top. Merci beaucoup, Jocelyn. Alors, les autres, est-ce que la chronique de Jocelyn vous a inspiré? Est-ce que vous avez, par exemple, des exemples de pratiques ou de coutumes liées à l'alcool qui sont différentes des nôtres?
Je t'en prie,
est-ce
Sacha.
Est-ce que là, tout de suite, non, j'ai rien qui me vient en tête. Okay.
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, le premier verre, souvent, c'est à table, en famille ou au repas.
C'est sûr.
Donc, c'est les archives INA où on voit les gens qui disent que l'alcool, le vin en particulier, c'est pas de l'alcool, par exemple.
Oui, et puis notamment en France, il y a un côté très, avec le vin, un côté très gastronome, quoi. Il n'y a pas un seul bon restaurant qui n'a pas une superbe carte de vin qui accompagne ça, quoi. Et rarement, on y va en buvant de l'eau.
Il y a peut-être aussi notre environnement qui joue, dans le sens où, tu vois, je vois un chiffre là sous les yeux, il y a 23% des adolescents qui disent avoir ressenti l'envie de consommer la boisson mise en valeur par la publicité. La publicité, elle joue son rôle aussi. Quand on va sur les réseaux sociaux, etc., on peut voir des contenus qui sont liés à ça. On avait une émission de Poulpe, il y a quelques temps, sur Canal+, qui mettait en valeur ces choses-là. Donc c'est peut-être aussi l'environnement qui doit beaucoup jouer dans ce genre de cadre.
C'est ça. Non, mais puis comme tu dis, il y a la pub. Même si maintenant, normalement, c'est interdit avec la loi E20 depuis début des années 2000, je crois. Et il y a aussi tout cet environnement culturel, tu en as parlé aussi. Enfin, je sais pas, tu prends des séries, tu vois, des séries policières, par exemple. Tu as toujours un personnage d'un flic qui boit du whisky seul en faisant des enquêtes. Tu prends Desperate Housewives, tu as des grandes bourgeoises qui boivent du vin rouge dans des grands verres en bitchant les unes sur les autres. T'as cette place culturelle,
c'est le cosmo de Sex and the City, quoi. C'est vraiment l'image de la femme émancipée qu'on a tous envie d'attendre. Moi je trouve qu'il y a une vraie glamourisation de l'alcool quand même dans le on grandit avec des images de séries, de films qui valorisent énormément la consommation de l'alcool. Je trouve qu'on y revient un peu d'ailleurs, ça évolue plutôt un peu dans le bon sens, et je pense que l'émission la série Euphoria et le personnage incarné par Zendaya est peut-être un peu ça montre un premier exemple de, on parle pas juste de la glamourisation de l'alcool ou de la défonce, mais on marque plutôt la zone d'ombre. Je trouve qu'on arrive enfin à changer un peu ce truc là, mais il y a des années et des années de glamourisation de consommation quand même.
C'est le problème, c'est le côté aussi ambivalent, c'est à dire que c'est aussi glamour d'aller mal. Souvent c'est le flic bourru. C'est un peu ça, et c'est dans la douleur qu'il est stylé. C'est là où il sort à l'écran, quoi. Ouais, pareil pour Desperate Housewives, au départ, c'est quand même des femmes qui peuvent être dépressives, avoir des problèmes suicidaires ou autres, mais il y a ce truc où elles sont glamour dans la souffrance, quoi. Un peu truc comme ça.
L'alcool favorisant quand même la dépression, par ailleurs. Donc, et non pas un facteur. Enfin, en tout cas, il y a des études qui sont qui concernent justement l'alcool au féminin, et qui disent que souvent, en fait, les femmes se font soigner pour dépression. Parce que finalement la consommation d'alcool est pas forcément dévoilée. Alors même que l'alcool favorise la dépression. Quoi. Mais c'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule, en fait. Qu'est-ce qu'on soigne, la consommation d'alcool ou la dépression?
Oui, c'est vrai que l'alcool fait partie des... C'est une comorbidité pour énormément de pathologies. C'est marrant qu'on parle de glamourisation de l'alcool parce que moi, quand je pense à ça, je pense aussi, par exemple, au moment où j'ai fait les fêtes de la Saint-Louis à 7, c'est un peu comme les fêtes de la Saint-Jean. Je sais pas si vous avez les images en tête, mais en fait, les gens boivent à n'en plus finir. Et c'est-à-dire que quand on rentre le soir, en fait... Bah, y a des mecs, souvent des mecs qui sont allongés sur le trottoir, qui sont morts de... parce qu'ils ont trop bu, etc. Donc c'est vrai que moi je pense aussi beaucoup à ça et voilà, c'est beaucoup associé aussi à la fête en été, surtout en France, quoi.
Oui, c'est ça, bah, y a pareil avec les fêtes de Bayonne, ouais. Là, qui viennent de se finir. Là c'est des grandes beuveries généralisées dans les villes, quoi, et ouais, en plus, les villes finissent dans des états dégueulasses.
Ouais, ça pue la pisse.
Moi, j'ai l'image, pour avoir grandi dans un... Enfin, en tout cas, avoir évolué dans un milieu un peu agricole, moi, c'était le salon de l'agriculture, par exemple, qui était vraiment le lieu... Enfin, j'y vais depuis que je suis toute petite, et c'était le lieu où, passé un certain âge, en gros, le but était de se la coller entre copains, quoi. Ouais. Mais en fait, il faut quand même aussi... Enfin là, ça fait 3 ans du coup que j'ai arrêté de boire et ça fait 3 ans que je continue à aller au salon de l'agriculture en me disant non, j'y vais, même sobre et tout, oui, je vais y aller. Et il y a plein de manières de faire la fête quand même, heureusement. Et j'espère que, enfin, tu parlais tout à l'heure de fêtes typiques du Sud. J'espère qu'il y a d'autres gens qui profitent de ces fêtes en le faisant de manière sobre. Heureusement, en fait, c'est vrai qu'on a un peu cette image de la fête égale alcool. Et c'est systématique et d'ailleurs moi c'est ce qui me faisait vraiment très très peur en fait quand j'ai arrêté de boire, c'est que je me suis dit waouh, je vais perdre mon grain de folie, je vais plus jamais m'amuser, je vais plus jamais danser, enfin, y avait un truc hyper effrayant, quoi. Et ce qui est très chouette en fait, c'est que j'ai pas du tout arrêté de sortir, j'ai pas du tout arrêté de vivre, mais par contre je le fais en pleine conscience. Et en fait, j'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait plein de gens qui faisaient ces soirées là de manière sobre, en fait, que c'était pas forcément être... c'est pas forcément la norme non plus, et cette norme, on peut en parler, mais il y a plein de manières de faire la fête, et heureusement l'alcool fait pas toujours partie de la fête, quoi, parce que c'est pas parce qu'on questionne sa consommation, c'est pas parce qu'on se dit ah, ce verre là est-ce que en fait je le bois parce que je fais comme les copains, est-ce que en fait je questionne pas, je commande une bière parce que tout le monde commande une bière, en fait, ou est-ce que vraiment à ce moment là je me suis... J'aurais pu boire autre chose, mais peu importe, quoi. Et juste de questionner, de se poser la question, mais c'est déjà super, en fait. C'est déjà super et ça n'empêche pas de passer des belles soirées, en fait, heureusement.
Ok, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale. On écoute Blame It de Jamie Foxx. Blame it on the blues. Got you feeling loose, blame it on the drone. Got you feeling gone, blame it on the alcohol. Blame it on the she says she usually don't, but I know that she front. Cause all they know what she want, but she don't wanna seem like she easy. I hear you saying what you won't do, but you know we're probably gonna do what you.
But what you don't even care now. I was unaware I find you was the
sur l'Happy Hour Scientifique, il est 19h23.
L'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
Ellie, toi, tu t'es intéressée à ce qu'il se passe dans notre corps lorsque l'on boit de l'alcool, mais aussi aux effets à court et long terme quand on consomme cette substance. On t'écoute.
Alors, concrètement, quand on boit de l'alcool ou de l'éthanol, il traverse notre œsophage pour ensuite rejoindre l'estomac, où seulement une très petite partie de l'alcool est dégradée. Le reste passe tel quel dans l'intestin grêle, puis rejoint le système sanguin. L'alcool traversera alors tous les organes du corps, mais certains seront plus impactés, comme le cerveau, le cœur et le foie.
Y a-t-il des facteurs qui peuvent influencer l'assimilation de l'alcool ?
Selon un rapport de la Fondation Addiction Suisse, quand on boit de l'alcool, avec l'estomac vide, il arrive dans le sang entre 15 et 30 minutes plus tard. A l'inverse, quand on a l'estomac plein, il mettra jusqu'à une heure pour atteindre le sang, car la digestion de la nourriture mélangée à l'alcool fait qu'il met plus de temps à atteindre l'intestin grêle. Alors la concentration en alcool dans le sang augmente plus lentement, d'où l'intérêt de manger quand vous buvez. Mais aussi, quand on boit du champagne par exemple, le gaz carbonique contenu dans la boisson va dilater les vaisseaux sanguins du système digestif. L'alcool est donc absorbé plus vite et mettra plus de temps à se dégrader, car l'organisme est capable d'éliminer entre 0,1 à 0,2 g d'alcool par litre de sang et par heure.
Mais justement, comment l'alcool est-il éliminé ?
La dégradation de l'alcool se passe essentiellement dans le foie, grâce à ces cellules hépatiques qui utilisent des enzymes. Ces enzymes représentent un mécanisme de dégradation qui permet de dégrader l'alcool en acétaldéhyde pour être éliminé. D'ailleurs, chaque organisme ne présente pas la même efficacité d'élimination à l'alcool, à cause de la forte affinité ou non des enzymes à l'alcool ainsi qu'à la vitesse de dégradation. Par exemple, la moitié de la population asiatique a une activité enzymatique moins efficace que la moyenne, et pour cause, ces personnes sont plus intolérantes à l'alcool. L'acétaldéhyde, qui est le produit de la dégradation de l'éthanol, est hautement toxique. Il se fixe ensuite aux protéines, aux lipides et à l'ADN, et il va altérer le fonctionnement des cellules du corps.
Et du coup, quels sont les effets de l'alcool sur notre corps ?
Selon une synthèse de Santé publique France, les effets connus à court terme générés par l'alcool varient en fonction de la dose consommée. Pour une petite dose, entre 1 à 2 verres, on peut ressentir une sensation de détente, voire de désinhibition, mais avec une diminution des réflexes. À forte dose, au-delà de 4 verres, l'ivresse se caractérise par une mauvaise coordination des mouvements, une élocution troublée ou encore une perte de mémoire allant jusqu'au trou noir. Ici, l'alcool agit au niveau des synapses inhibitrices dans le cerveau. L'alcool prend la place des neurotransmetteurs et active la synapse plus longtemps que la normale. Du coup, la communication entre les neurones sont ralenties. À ce stade, le lendemain, on se réveille avec la gueule de bois qui engendre des maux de tête dus à la déshydratation. Le fonctionnement de l'hormone antidiurétique sécrétée par le cerveau est perturbé. Moins cette hormone est sécrétée, plus l'organisme gaspille de l'eau pour éliminer l'alcool. Enfin, à forte dose, au-delà de 3 g par litre d'alcool dans le sang, cela peut mener à un coma éthylique. La quantité d'alcool bu perturbe le système nerveux central et le rend incapable de fonctionner. Il engendre une perte de connaissance, du tonus musculaire et un refroidissement du corps. Il peut mener jusqu'à la mort et nécessite une hospitalisation. Une consommation chronique, même faible, peut provoquer à moyen terme des troubles du sommeil, de la concentration, mais à long terme, cette consommation augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire ou un cancer du foie. Mais le plus souvent, une maladie hépatique, la stéatose, qui est due à un dépôt de graisse dans le foie qui ne peut plus être éliminé. Cette maladie représente la première cause de mortalité hépatique en France. Alors, petit rappel, en cette période chaude et estivale, l'alcool, c'est pas plus de 2 verres par jour et pas plus de 10 par semaine.
On essaiera de s'en rappeler. Alors maintenant, on se rapproche doucement de la fin, mais on ne conclura pas l'émission sans notre jeu Caps ou pas Caps. Sacha, à toi le micro.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Yeah. Alors c'est marrant, ou plutôt pas d'ailleurs, mais quand on dit qu'on va boire, on précise rarement quoi derrière, mais on sait qu'on parle d'alcool. Premier caps ou pas caps pour ma part, et on démarre sur la tease. Toujours bien de commencer un nouveau truc avec un sujet qu'on maîtrise. Alors, pour une première question, je vais tout simplement partir sur une question à choix multiple, ou QCM, comme disent les gens, cool. Back of to the origin. Alors, selon vous, la première trace que l'on a retrouvée de consommation humaine d'alcool vient A, de Mésopotamie. Située dans l'actuel Moyen-Orient, on y aurait retrouvé les premières traces de brassage de bière vers 3200 avant notre ère. Et ce n'était pas une IPA. B, de Chine, où des restes de soirées composées de boissons fermentées mixtes, de riz, de miel, d'aubépines et de raisins ont été retrouvés dans des vases vers moins 7000. Il paraît qu'on pouvait y voir une femme nue au fond des vases. C, du Pérou, où de récentes recherches ont déniché dans un temple caché des bols précolombiens contenant un mélange de fruits fermentés inconnus et de psychotropes qui dateraient de 12 000 avant Jésus-Christ. De quoi rendre jaloux festivalier et intermittent du spectacle. Ou des de Bretagne, parce que oui, en Bretagne, on descend du cidre depuis la nuit des temps. Pas besoin de blablater plus que ça. D'ailleurs, je suis à sec et je m'emballe. Alors,
Je pensais qu'il y avait trois réponses et j'allais faire la vanne sur la Bretagne, mais tu l'as fait. Je suis dégoûté.
J'avais tout prévu.
Moi, je parie sur la B.
Donc de Chine.
Exact.
Charlotte, peut-être, est-ce que tu as une petite idée?
J'aurais dit A ou B, mais sans cerveau. Ouais, peut-être B, allez.
Peut-être B. Et ben, c'est la B. C'est la B. Ah. Bien joué. Donc, la première boisson alcoolisée, confirmée par des analyses, dont il restait des résidus dans des vases, donc a été découverte en Chine, à Jiahu, qui est dans la vallée du Fleur Jaune, qui est plutôt au nord-est de la Chine. Elle date de l'époque néolithique, donc environ 7000 avant Jésus-Christ. Et d'autres vestiges similaires ont été trouvés à la même époque en Iran et en Turquie.
Wow.
Voilà. À l'époque, déjà, on montait sur la table pour chanter ivre.
Je suis plus étanche, je monte sur la table. Je m'en fous, je suis plein comme un cartable. Remets-moi la petite sœur, même s'il est 5 heures. C'est le patron qui régale.
Allez, patron de la table, décollons maintenant vers l'espace. Alors, ça part sur un vrai ou faux. Thomas Pesquet, a déjà fait une sortie spatiale après avoir descendu 2 bouteilles de vin rouge.
Bah, c'est faux. Bah, non, j'y crois pas.
Moi, je pense que c'est faux aussi, ouais.
Mais oui, c'est faux, bien sûr, car les astronautes n'ont évidemment pas le droit de se murger en mission, pas de bibine dans l'ISS. Mais est-ce que vous connaissez Skylab ?
Non.
Non.
Alors Skylab, c'est la première station spatiale américaine lancée en 1973 et désorbitée en 1979. Pendant la préparation des missions, les premiers prototypes des repas déshydratés étaient tellement dégueulasses que la NASA a engagé des chefs et un sommelier pour établir de nouveaux menus. Donc il y avait un vin américain qui s'appelle le Sherry qui avait été sélectionné pour ravitailler les astronautes. Sauf que le Sherry, il n'est jamais allé dans l'espace. Car en fait, les premiers tests dans l'avion à faible gravité de la NASA, surnommé le Vomit Comet, donc un joli nom, conçu pour vérifier si l'emballage, qui était un genre de cubi mais sans le carton, fonctionnait en apesanteur. Et selon un témoignage, il se trouve que les odeurs dégagées par le vin, combinées à l'odeur résiduelle de plusieurs années de personnes malades dans l'avion, ont eu un effet imprévu sur l'équipage et beaucoup ont attrapé leur sac à vomi. Et il n'empêche qu'il est tout de même arrivé que des consommateurs, que des cosmonautes, donc des Russes, apportent en douce du cognac et des Américains de la bière à bord de la station Mir fin des années 90. Une petite bamboche de réconciliation après des années de guerre froide. Allez, partons encore plus loin, chargeons la mule vers le cosmos. On part sur une question ouverte. À votre avis, est-ce qu'il existe de l'alcool autre part que sur notre planète ?
Waouh.
Wow, grande question ça.
Je sais pas,
moi
mais...
je pense. Fermentation c'est partout. Ça peut exister un peu partout.
Et tu penses que c'est comment ?
Je sais pas où, mais la fermentation ça doit exister un peu partout. Donc moi j'y crois.
Et peut-être ça veut dire qu'ils l'ont goûté lors de missions spatiales pour le savoir.
Bon allez, je vous donne la réponse. En fait, à 6500 années-lumière de la Terre, il y a un nuage moléculaire géant d'alcool. Il mesure près de 500 milliards de kilomètres. Et il est nommé W3OH. Mais ce nuage, il est en revanche majoritairement composé de méthanol et pas d'éthanol, donc l'alcool que nous consommons. Et le méthanol, c'est avec un atome de carbone en moins par rapport à l'éthanol, mais c'est très 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 toxique pour nous. Il détruit notre peau, nous irrite et peut nous rendre aveugles. Donc pas conseillé, car l'alcool, c'est pas toujours cool.
C'est pas cool !
Oui, j'ai dit que c'était pas cool.
L'alcool, c'est pas cool. Ça devrait s'appeler l'alcool.
continuer ce caps ou pas caps, on redescend sur Terre, enfin qu'à moitié. Je vais maintenant vous faire écouter un extrait de série et vous allez devoir deviner de quelle série il s'agit et de l'anecdote en rapport avec l'émission qui se cache derrière.
Hello Vindicators, welcome to your reckoning, baby! Well, it's official. I had too much to drink last night.
You could replace me with a clone?
Mm-hmm.
Am I the clone?
Sorry, what? You break the rules, lose the game, or try to leave, you will die. Like in... Saw.
Friday played a song, she said it's my shit, my shit.
Vindicators say their job is to fight evil wherever it hides, but they don't pick the location you'll never hear them even mention, because to fight darkness is to fight yourself.
Alors, est-ce que vous avez une idée?
C'est une série, t'as dit?
C'est vrai, c'est une série animée.
Je l'ai pas du tout.
Je l'ai pas non plus.
Vous l'avez pas? Oh là là. Eh ben, il s'agit de la génialissime série animée de SF Rick et Morty.
Oh,
et oui,
ouais.
Parce que le personnage de Rick, c'est autant un scientifique de génie qu'un alcoolique notoire. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout Justin Roiland, qui est co-créateur de la série et interprète des voix de Rick et Morty. Est-ce que vous devinez l'anecdote?
Ah non, je suis désolé, je sèche.
Eh bien, en fait, donc l'anecdote, c'est que lui, il interprète de la voix de Rick. Lorsque Rick est bourré dans la série, eh bien, lui, il sarsouille aussi en studio. Voilà. Donc, il y a des making-of sur YouTube où on peut voir cette technique d'acting qui n'est pas vraiment banale, qui montre ses réussites, mais aussi ses échecs. Et voilà, lui, il a interprété la voix de Rick et Morty pendant 6 ans, mais il finit par être viré de la série pour la saison 7 pour des faits de violence conjugale. Même si finalement, après, il sera relaxé par la justice américaine. Voilà. Bon, allez.
Sombre histoire.
Allez, avant de clore ce caps ou pas caps et d'aller ramasser une pistache, parlons animaux. D'après vous, quels sont les animaux que l'on croise le plus souvent titubants en France et à quelle période?
Ah, mais j'ai entendu parler de ce truc-là. Je l'ai vu passer l'info, mais je ne l'ai pas.
Vous avez des petites idées?
Les canards, les chèvres?
C'est pas un petit moustique, non?
C'est les pigeons parisiens là, qui boivent tout et qui mangent tout, n'importe quoi et n'importe comment là.
On a en régie des gens qui font des drôles de modes. qui sont en train d'essayer de mimer quelque chose, mais je l'ai pas moi.
En fait, ce sont des cervidés, chevreuils et chamois par exemple. Et en fait, c'est au printemps que ces bêtes s'enivrent en mangeant des bourgeons. Et ces derniers, très riches en sucre, fermentent à l'intérieur de l'appareil digestif de ces pauvres ruminants. On appelle ça le syndrome d'auto-brasserie. Résultat, il n'est pas rare de retrouver les animaux sautillants comme des fous, complètement paniqués et perdus, en train d'essayer de traverser un grillage en donnant des grands coups de tête dedans, puis de les retrouver écroulés, endormis n'importe où, même qu'on en a retrouvé coincés dans des arbres. Donc finissons ce caps ou pas caps sur une note préventive. Cette substance, l'alcool, est bien entendu une drogue dure et il faut donc la consommer avec grande modération. Car comme Camus disait, l'alcool éteint l'homme pour allumer la bête, ce qui lui fait comprendre pourquoi il aime l'alcool là. Merci.
Top, merci beaucoup Sacha. On adore toujours autant le caps ou pas caps dans cette émission. Sacha, il me semble que tu voulais revenir sur un point avec Charlotte, notamment on avait fini notre discussion tout à l'heure sur le moment où on arrête de boire.
Oui, bah, moi j'avais une question pour toi Charlotte. Du coup, quand on prend la décision d'arrêter de boire, comment ça se passe? Est-ce qu'on arrête du jour au lendemain de boire des verres ou est-ce que c'est un processus qui est progressif?
Ça a changé d'ambiance avec la musique juste avant. Dur. Et c'est dangereux d'arrêter de boire du jour au lendemain seul. C'est très dangereux. Et enfin, les médecins même déconseillent à des personnes malades alcooliques d'arrêter en solo parce qu'en fait c'est une des rares addictions qui peut entraîner la mort par sevrage en fait. Donc il faut être assez prudent quand on entreprend ce sevrage. Moi je vais pas du tout vendre un glow instantané quand on arrête de boire. En tout cas pas quand on est malade alcoolique. Moi quand j'ai d'abord essayé de diminuer. En fait du coup quand je suis arrivé chez l'addictologue, je suis sorti de cette première consultation avec pour seule mission, mais qui était déjà terrible, mais pour seule mission d'arrêter, enfin de d'essayer de se limiter, de ne pas boire certains verres, en tout cas ceux qui me paraissaient moins utiles que les autres. Et moi, la modération dans mon cas était pas possible, en fait. Ça a quand même duré quelques semaines et je me suis quand même modérée. De 12 litres, je suis passée à 3-4, donc ce qui est quand même déjà très bien. Mais en fait, l'addiction, la maladie, c'est le petit monstre dans le cerveau qui réclame de boire, quoi. C'est vraiment cette espèce de petit moulin qui tourne tout le temps. Et je trouve d'ailleurs que pour se rendre compte, si on a... Mais pour n'importe qui d'ailleurs, pour se rendre compte si on a un comportement addictif ou en tout cas des tendances addictives avec l'alcool, ce qui peut être un bon test, c'est de se mettre par exemple dans une soirée, dans un événement festif, dans n'importe quelle occasion où on aurait en temps normal bu. Qu'est-ce qui se passe si on ne boit pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va manquer? Et si oui, pourquoi? Et est-ce qu'on va y penser, est-ce qu'on va pas y penser, voilà. Et ça permet de se rendre compte juste quel est notre rapport avec ce produit. Et moi, dans mon cas, je suis devenu complètement givré, parce qu'en fait je me mettais à réfléchir: ce verre là j'ai le droit, ce verre là j'ai pas le droit, pourquoi. Mais je devenais complètement folle. Enfin, en tout cas, c'est le moment où il a même été question de m'hospitaliser. Pardon, il a été question de m'hospitaliser, mais après, voilà, donc un jour, j'en ai eu vraiment marre de négocier en permanence avec mon cerveau. Et j'ai, voilà, j'ai dit à mon addictologue, je sais pas si c'est ça être alcoolique, mais en tout cas, soit on l'ouvre le robinet, soit on le ferme. Et c'est là où il m'a mis sous traitement, en fait, pour sevrage alcoolique, traitement que je prends encore. On peut y arriver sans traitement, quand même, c'est possible. Et je pense qu'un des secrets pour se sortir de cette maladie, en tout cas une des techniques, c'est surtout d'en parler. On dit que l'alcoolisme est la maladie des émotions, parce que ça fait pare-feu un peu à toutes les émotions, mais c'est aussi la maladie de la solitude, et en fait le secret est vraiment d'en parler.
Il y a plein de personnalités qui se positionnent sur l'alcool en disant qu'ils arrêtent de boire, comme Jérémy Ferrari, ouais. François Cluzet, Daniel Radcliffe, Adèle, Demi Lovato, Artus aussi, Tom Holland. Voilà, même Chips. Est-ce que ça, finalement, ça devient... En tout cas, il y a plein de personnalités qui se positionnent, donc ça va peut-être changer au fur et à mesure.
C'est tellement bien qu'il y ait des personnalités qui se positionnent, parce que justement, moi, à moins de 30 ans, quand je picolais des litres et des litres de bière, je me suis jamais dit que je pouvais être alcoolique, parce que l'alcoolique, c'était pas une jeune femme avec pour qui rien déconne sur le papier, quoi. Il y avait ce truc de « bah non, j'ai une famille qui déconne pas, j'ai mes diplômes, je suis en couple, j'ai un toit, ouais, ça va, c'est pas ça être alcoolique, quoi. » Et donc je trouve ça super, en fait, qu'il y ait des gens qui disent « bah ouais, moi aussi je suis sobre et moi aussi j'en chie parfois », parce que c'est un peu ça aussi, en fait, hein. Enfin, c'est voilà, on arrête de boire, mais dans les faits, l'envie est encore là, et heureusement que ces gens-là se positionnent et disent que c'est possible de vivre sans et montrent un peu leur combat.
Ça permet de parler du sujet. Et si les gens ont des soucis d'alcool, il y a un site qui s'appelle Alcool Info Service, ouais. Qui est super intéressant. Voilà, je voulais juste le citer. Et du coup, bah voilà, ton ouais. bouquin est toujours dispo en librairie. En librairie cette fois, je me suis pas
Merci
trompée.
Merci infiniment, Charlotte, pour ton pour ton témoignage et ta sincérité. Merci à tous de nous avoir écoutés et à toutes celles qui ont participé aujourd'hui. On se dit à dans un mois. Et d'ici là, retrouvez-nous sur Instagram et Twitter à l'adresse hhscientifique. À bientôt.
Bon, ben, il y a messieurs, hein, à la prochaine, et au revoir, et puis, bon retour, hein, au revoir, messieurs.